Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousue main, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, nationalisme et populisme, l'autre visage de l'Europe. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a l'échéance des prochaines élections, les 1000 questions qui nous traversent et les peurs qui nous habitent. Il y a ce petit bulletin qu'il faudra glisser dimanche dans l'urne et surtout, il y a ce chiffre que l'on ne veut pas entendre, que l'on préférerait ne pas lire, ces 25% de voix qui en France iraient à l'extrême droite. Alors il y a aussi une envie de comprendre, d'explorer, de s'obliger à entendre ou au moins à écouter ce qui émerge autour de nous. Et surtout, au-delà du constat de ce virage nationaliste européen, rappeler d'où vient l'extrême droite et ce que demeure son discours, un discours qui désormais pousse souvent sur le dos de l'Europe. Alors pour commencer, les personnages. Un chef de parti polonais qui utilise l'infrastructure européenne à son profit, un paysan amer et ruiné, une fermière en colère qui cherche des boucs émissaires, des Autrichiens catholiques qui se sentent envahis. Ensuite, le décor. La sonnerie avant le vote, le Parlement pour faire patte blanche, de la neige fraîche, des poules, un chien, de la bureaucratie, la ruine, des villes sinistrées, des permanences de quartier et toujours un peu de racisme. Aujourd'hui, troisième épisode, Jean-Yves Camus, qui scrute les dérives politiques, dissèque les forces en présence.
Alors, tout d'abord, au sein des institutions européennes, force est de constater, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, que c'est la Commission qui tient le manche. Et que le Parlement européen est dans un rôle qui est tout de même mineur par rapport à celui de la Commission. Le second point, c'est que quand on regarde la composition de ce Parlement européen, les trois formations qui constituent au fond le consensus dominant, les libéraux, les chrétiens conservateurs et les sociaux-démocrates, ont encore une écrasante majorité. Elle s'est effritée en partie lors des dernières élections européennes au bénéfice des populistes, des eurosceptiques, autres qu'extrêmes droitiers, polonais, UKIP, etc., et en partie d'ailleurs des gauches radicales qui ont fait des scores honorables lors de cette consultation, mais les trois formations principales, ALDE, PPE, PSE, restent encore, je vais dire, outrageusement majoritaires. Donc, non, il n'y a pas de souci de dislocation de l'intérieur. Il y a le fait de savoir si les scrutins nationaux ne vont pas montrer dans les années qui viennent une sanction des partis qui participent à ces trois familles-là. Il n'est pas acquis, en tout cas, que l'Union européenne puisse tenir encore extrêmement longtemps sans revoir un certain nombre de fondamentaux de son fonctionnement et sans véritablement produire un récit nouveau.
Parlement européen, le grand machin supranational. Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg, le Parlement européen est un peu partout et un peu nulle part, tant on ne sait qui il est. Et ce malgré les centaines, les milliers d'articles, films et reportages consacrés à son fonctionnement et à son identification géographique depuis Maastricht et Lisbonne. 30 mai 2005, Serge Julie dans Libération. Ce sont des cris de douleur, de peur, d'angoisse et de colère que l'électorat de gauche a poussé dans les urnes à l'occasion du référendum, face à la course folle du monde et face à l'incurie des hommes qui nous dirigent depuis plus de 2 décennies. Plus de 10 ans après son édito assassin, la montée de ces extrêmes fait peur. Désormais, elles intègrent les institutions mêmes, celles qu'elles conspuent et rejettent. 15 décembre 2016, avenue du président Robert Schuman à Strasbourg. Après plusieurs points de contrôle de sécurité, nous arrivons à pénétrer dans l'immense bâtiment Louise Weiss sur les bords de l'île et du Rhin. C'est l'heure de pointe, tandis que nous assistons à un ballet bien étrange. Députés, assistants et collaborateurs entrent et sortent, munis de leurs valises cabine, Eurotrips oblige. Bruxelles 3 semaines par mois, Strasbourg 12 semaines par an. Les allers-retours mensuels entre Bruxelles et Strasbourg ne font-ils pas régulièrement la une pour illustrer la coûteuse et inefficace bureaucratie européenne? Après 45 minutes de déambulation dans un dédale labyrinthique de couloirs, nous retrouvons Janusz Korwin-Mikke, député européen polonais non inscrit, leader de la coalition pour la restauration de la liberté et de l'espoir pour la République.
Je m'appelle Janusz Korwin-Mikke et je suis membre du Parlement pour la Silésie en Pologne. Je dois assister à une réunion importante, la première réunion de la Commission des Affaires étrangères.
Élu lors des élections au Parlement européen de mai 2014, ayant obtenu 5,17% des voix au niveau national, l'homme politique le plus controversé de Pologne et sans doute du Parlement européen est attendu. Pour une fois, on l'invite à débattre sur les questions de défense européenne au sein d'une commission qu'il ne trouvera jamais. Alors pourquoi vous avez décidé de devenir député européen ?
Avec mon parti, on s'est présenté aux élections et on a eu l'immense chance de passer la barre des 5% des voix. C'est très difficile en Pologne de passer certaines barres pour notre parti. Prenez l'accès à la télé. Nous n'avons pas accès à la télé. Même à la télé nationale, en 4 ans, ils ne nous ont même pas accordé une minute. Ils nous considèrent comme des ennemis de l'État. Ils disent que nous détestons l'État. Mais on a passé cette barrière des 5% et nous continuons à progresser. Nous espérons 10% aux prochaines élections, si toutefois l'Union européenne existe encore. Et je n'en suis pas absolument sûr. J'espère même qu'elle n'existera plus. Mais si elle existe et que nous remportons les élections, nous devons avoir accès à la télé, car on nous aura donné un mandat. Mais être député ici ne donne aucun pouvoir. Je n'y suis pas aussi populaire qu'en Pologne, bien sûr. Mais ça me permet de récolter des fonds qui sont importants pour aider mon parti. Ça paye d'être ici. Je donne beaucoup de mon temps. Vous avez vu, je passe une grande partie de mon temps à parler des gorilles au Congo. Mais bon, j'ai Internet et je reste connecté. Du coup, je supporte d'être ici. Vous devez comprendre ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'était d'abord une union pour le charbon et l'acier. Ça a été créé comme une sorte de marché libre pour certaines matières premières en Europe. Et puis, à ce moment, dans les années 60, il y a eu le terrorisme avec l'armée rouge en Allemagne et en Italie, des groupes gauchistes. Et ils ont échoué. Moi, j'ai eu peur qu'ils réussissent. C'est alors que Rudi Dutschke, sociologue marxiste allemand et un des fondateurs du Parti Vert, a dit « Arrêtez ce combat contre l'État ». C'est absurde. Just inscribe in the ranks of the government. Rentrez dans le rang. Don't fight European community. Ne combattez pas l'Union européenne. Inscrivez-vous dans le cadre qu'elle propose et une fois à l'intérieur, grossissez. C'était le programme de Dutschke, qui était, lui, le gourou de la gauche. Et c'est ce que tout le monde a fait. Ils ont doucement changé la communauté européenne en une Union européenne et maintenant, ils vont certainement appeler ça l'Union des républiques européennes socialistes. Ce sont des communistes. Barroso est aussi communiste, voire maoïste. C'est ça la situation. Et ce sont eux qui dictent les règles du jeu aujourd'hui avec un programme socialiste. L'État-providence, c'est une idée socialiste et je déteste ça.
All the time about the diversity, that our parliament is to defend diversity. But all the time, if there is a voting, we are voting for unification of everything. You are not for diversity, but for unification. This time it is Ein Reich, Ein Volk, Ein Ticket. Thank you very much.
La Pologne, c'est mon pays, un pays sous occupation, et je suis ici pour lutter pour l'indépendance de mon pays. Comme les Anglais avec leur parti pour l'indépendance. Moi, je suis pour l'indépendance de la Pologne. La classe politique de mon pays ne vaut pas mieux que l'Union européenne. Mais il est plus facile de mener une bataille sur un grand bateau que sur un petit. Si vous voulez prendre le pouvoir, mon but, séparer la Pologne de l'Union européenne, et après je gagne.
Qu'est-ce que vous détestez le plus dans ces institutions européennes ?
Parce que c'est une force d'occupation, constituée par un gang de comploteurs qui a pris le pouvoir sur la communauté européenne. La communauté européenne est une fédération d'États.
It's a federated state. It is a state, has a flag, and the laws of European Union.
L'Union européenne impose ses lois dans ses États.
No, dominance and preference to the local. The Union can impose a law in Poland.
C'est l'Union européenne qui fait la loi en Pologne.
So we are now.
Le Parlement polonais ne fait qu'acter ses lois. Maintenant, nous sommes assujettis à l'Union européenne. Bien sûr, si c'était Margaret Thatcher qui était à la tête de l'Union, j'accepterais son Europe. Mais sous l'occupation de ces trotskistes, de ces maoïstes, ces communistes et ces socialistes, des socialistes athées, des socialistes qui défendent l'Afrique, toutes les sortes de socialistes antidémocrates, ben c'est non.
Comment vous expliquez votre succès en Pologne, est-ce que ça veut dire que les Polonais ont la même détestation que vous de cette Europe ?
Non, la majorité des Polonais veulent appartenir à cette Union parce que ça leur donne le sentiment d'exister en Europe. Chaque paysan perçoit 200 zlotys par hectare, ce qui est beaucoup pour les pauvres paysans. Excusez-moi, il faut que je parte.
Corwin Mikke nous quitte, qu'à cela ne tienne. Après une heure de route à l'ouest de Varsovie, nous arrivons dans une ferme qui ressemble sans aucun doute à ce qu'elle était au siècle dernier. Dans la région, on produit des pommes et des fruits rouges. Enfin, ça c'était avant, avant l'Europe. Malgré la neige, Christophe s'affaire, car il est le seul à faire vivre sa ferme. Pour combien de temps encore ?
Christophe, Alain.
Mi również gościć takich gości ze świata, można powiedzieć, no bo tutaj no.
Je suis ravi d'avoir des invités du vaste monde. Ici, les étrangers sont rares parce que c'est un petit village, loin des grandes routes.
Coś obejrzeć. My farm.
Vous voulez visiter les installations?
Horses.
Il y a des chevaux, des vaches. C'est une petite exploitation, 10 hectares, quelques vaches, quelques chevaux, des moutons.
Et avant l'Europe ?
Pareil, mais avant j'ai eu plus de brebis, des oies, maintenant j'en ai plus.
Owiec tak spadła, aussi des cochons. Że, no, nie było sensu w ogóle trzymać, a wełny z owiec nie było gdzie sprzedać.
C'est plus rentable d'avoir des brebis. Et j'avais pas où vendre la laine, donc je me suis débarrassé du troupeau. Pareil pour les oies, les prix ont chuté. Il ne me reste que les chevaux et les vaches, et aussi les dindes et les poules.
C'est quoi votre principale activité ici ?
L'horizon est bouché parce que l'Union européenne se mêle de notre exploitation. Tout est sous contrôle et les dotations suffisent juste pour acheter des engrais et du carburant.
Co jak widać, że gospodarstwo nie rozwija
się. Que le développement piétine.
Tu, na tym terenie takich gospodarstw jak moje było 120.
Ici, il y a eu 120 exploitations comme la mienne. Sur les terrains aux alentours. Et après l'adhésion à l'Union européenne, il n'en reste qu'une dizaine. Les gens font autre chose, partent travailler dans les villes, parce que c'est difficile ici de subvenir à ses besoins.
Comment l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne a changé votre vie quotidienne ?
Bureaucratie. W dużej mierze biurokracja, którą trzeba zajmować się rejestrowaniem.
La bureaucratie nous a envahi.
Tak dalej. Wcześniej tego nie było.
Il faut s'en occuper, les enregistrements, les contrôles aussi. Avant, ça n'existait pas. On n'avait qu'à nourrir nos bêtes, à cultiver nos terres, mais maintenant, il y a des contrôles tout le temps.
Kontrole weterynaryjne, kontrole właśnie obszarowe.
On ne sait plus ce qui est légal ou pas, les contrôles de vétérinaire, pour le terrain, la surface qui ne correspond pas. Donc les géologues viennent vérifier. Par exemple, dans la forêt, quelques branches dépassent et font de l'ombre, et c'est pas réglementaire. Il faut se déplacer pour expliquer, donc au lieu de s'occuper de l'exploitation, on règle des problèmes de bureaucratie.
J'imagine que vous êtes en colère contre l'Europe.
Non, je ne suis pas content. Une chose positive, c'est l'arrivée des machines modernes. Mais on n'a pas d'argent pour les acheter.
Dysponuję ciągnikiem, który ma 25 lat.
J'ai un tracteur de 25 ans. Je peux pas renouveler mon matériel.
Combien d'argent vous avez perdu avec l'entrée de la Pologne dans cette Union européenne?
Były podobne, ale koszty były dużo mniejsze.
L'argent c'était pareil, mais il y avait moins de dépenses. Le fuel pour le tracteur maintenant, ça coûte 5 zloty.
Kosztowało złoty 50.
Avant 1,50 zloty. Les gains étaient comme maintenant, mais les dépenses plus élevées. Pareil pour les engrais. Avant, 100 kilos, ou plutôt une tonne, coûtait 500 zloty. Et maintenant, 1200.
Mais vous recevez des aides de l'Union européenne.
Dają te dopłaty i oni uważają, że to już jest wystarczająca pomoc dla nas. Ale to mówię, to starcza tylko na to, żeby
et ils considèrent que c'est une aide suffisante pour nous.
Wydajemy na paliwa, na nawozy. To tylko na to wystarczy.
Mais ça suffit juste pour équilibrer les dépenses du carburant et de l'engrais.
W dużej mierze jeszcze u nas polityka poprzednich rządów.
On n'a pas de moyens pour investir et développer.
To w kraju, która
En plus, chez nous, les gouvernants précédents de la Plateforma et du PSL privilégiaient leurs relations. Ceux qui étaient éloignés de ces partis, surtout du PSL, n'avaient aucune chance d'en bénéficier.
Alors expliquez-moi comment vous avez rejoint le parti de Korwin-Mikke.
Mniej więcej te same poglądy, które właśnie cenią wolność.
Les idées que je partage avec lui.
Wolność, a nie ujarzmienie właśnie.
Il aime la liberté et pas l'asservissement par la bureaucratie,
tak dalej,
les impôts, les contrôles.
Korwin-Mikke, odejdź.
Va-t'en.
Ceni właśnie to tą wolność, żebyśmy mogli my sami decydować.
La liberté pour qu'on puisse décider nous-mêmes de ce que nous voulons faire et comment.
Bo poprzez to, że Unia nam dyktuje
et non sous le diktat de l'Union.
Dąży do tego, żeby zniszczyć.
Parce qu'à cause de ça, on perd beaucoup.
I żeby po prostu ich produkty weszły na nasz rynek. I tak w dużej mierze.
L'Union veut détruire notre agriculture pour favoriser la rentrée de leurs produits sur nos marchés. Et c'est comme ça que le petit commerce a fait faillite. Et qu'il n'y a plus que des grandes surfaces, hypermarchés, qui appartiennent aux étrangers. Leviathan, Biedronka, c'est portugais, ça ne nous appartient pas.
Alors l'avenir, vous le voyez comment, vous?
Je pense que je vais être obligé d'abandonner aussi mon exploitation, parce que je ne vois aucun avenir de développement ici.
Nous laissons Christophe et la froidure polonaise, car à 1600 km plus au sud, sur les hauteurs de Gênes, capitale de la Ligurie au nord de l'Italie, d'autres agriculteurs nous attendent. Nous atteignons le bout d'un chemin sinueux, tandis que les chiens annoncent notre arrivée. Autre pays, autre culture, autre mœurs, et même colère.
La seconde azienda agricola di...
On est une petite exploitation, on n'est que deux dans ce petit village, et on a 22 bêtes. Non, on a également d'autres activités, on a des champs où on fait aussi des légumes, et puis ça nous sert aussi le crottin des vaches, les bouses, à faire notre propre engrais, donc on est en circuit fermé.
Alors cette exploitation, racontez-moi un petit peu d'où elle vient.
C'est la quatrième génération en réalité, hein, puisqu'il y a mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents et moi-même. Donc on a réussi à transmettre l'exploitation et on espère que ça va pouvoir continuer.
Pourquoi vous avez des doutes?
Et mes filles, non intéressent parce qu'ils font un autre type de travail et...
En réalité, mes enfants, ils ont choisi notre route, ils ne travaillent pas dans ce type d'activité, donc je ne sais pas, peut-être mes petits-enfants, on verra.
Depuis que l'Europe est venue réglementer l'agriculture dans tous les pays de l'Union, qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Sur notre vie, non è che abbia cambiato tanto. Perché adesso noi siamo da gennaio che non prendiamo, del 2016, che non prendiamo più soldi del latte.
En réalité, on n'arrive plus du tout à travailler parce que notre coopérative agricole qui récupérait le lait a fait faillite. Donc nous, on a des dettes à hauteur de 60 000 euros.
Alors qu'est-ce que vous faites de votre lait maintenant?
On continue à le livrer, mais on n'est pas payé. J'espère qu'un jour, on sera payé.
Vous avez perdu beaucoup d'argent, j'imagine, au passage de l'euro?
Si. Tanto. Si. Si, abbiamo perso. Perché una volta con
si viveva meglio?
Sì. Secondo me sì.
Secondo bah, moi j'avais une vie qui était plus agréable avant l'euro. J'avais l'impression d'avoir une vie plus confortable.
C'est quoi l'Europe pour vous? Comment vous regardez cette espèce de grande institution comme ça qui décide pour tout le monde, pour les 27 pays? Comment vous regardez tout ça?
Non, 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 capito come funziona.
Bah, en réalité, moi je ne comprends pas très bien comment ça marche parce que, en plus, on va dire, la chose la plus concrète c'était l'euro. Et on n'a pas vraiment compris en quelle mesure ça nous a aidé, cette nouvelle monnaie.
Alors, comment vous savez combien de litres il faut produire, à quel prix, combien de vaches il faut avoir, sur combien d'hectares vous recevez des notes de Bruxelles ou comment ça se passe? Vous êtes prévenu par qui? Vous recevez du courrier vous, comment ça se passe?
C'est les syndicats, en fait. Ils nous appellent et puis ils nous disent ce qui s'est passé, ce qu'on doit faire.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Non lo so, non sappiamo neanche io cosa possiamo fare. Perché ormai diciamo abbiamo guardato tutte le parti, abbiamo fatto tutto di tutto per.
Bah, nous, généralement, on est des gens qui gardent quand même l'espoir. Donc, finalement, on a regardé de tous les côtés, quoi. Et puis, rien n'est arrivé. Donc, là, je crois que c'est vraiment la fin de l'espoir.
C'est pour ça que vous avez rejoint la Ligue du Nord par désespoir?
C'est.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui vous plaît dans leur discours par rapport à, justement, à vos soucis quotidiens?
Non, non so neanche io, però le idee ci sono e guardiamo che loro dicono ancora di poter andare avanti.
Alors eux, ils ont quand même un discours qui est clair sur les produits locaux. Donc moi, ça me parle. Mais c'est vrai qu'autour de nous, enfin, c'est tellement abstrait que je ne sais pas comment ça va être reçu.
Perché la gente non.
Bah, en fait, la Lega, elle fait de la pub, quoi, pour le fait de consommer local. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas réceptifs, quoi. Donc ils sont réceptifs pendant une petite période de temps, et puis après, ça se cale. Finalement, je ne sais pas où ça peut aller.
Votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père n'avaient pas tous ces soucis?
Brutta.
Ils sont vraiment désespérés.
Et votre femme, elle dit quoi de tout ça? On peut vous nous présenter votre épouse?
Ma non è questa qua, mia moglie, mia cugina, mia moglie è in giù.
Ah, mais ma femme n'est pas là aujourd'hui. En fait, ce que vous avez, c'est ma cousine.
Simonetta, vieni un attimo.
Bonjour.
Piacere.
Alors dites-moi, votre cousin, il est très pessimiste pour l'avenir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Sì, perché anche io l'aiuto, ci lavoro tutto il giorno, perché noi qui si lavora dalla mattina presto fino alla sera.
Moi, je travaille toute la journée, du matin au soir. Et avec mon cousin, on n'est pas tout seul, mais on cède, mais ça ne suffit pas. En fait, on n'a jamais de vacances. On n'a jamais un moment à nous, et surtout, il n'y a pas de résultat. On est très pessimiste.
Alors, pourquoi vous continuez?
Alors, je pense que c'est la passion. Io ci sono venuta qua, mi sono sposata con mio marito, che è nato qua. Lui est nato qua. Io li aiuto, ma loro lo fanno proprio par passione.
Donc ça fait quand même finalement longtemps qu'il y a cette passion dans la famille. Mais je pense que peut-être les parents et même les grands-parents de mon cousin auraient fermé l'activité depuis longtemps. Et moi, ça fait depuis 2 ans que je leur dis qu'il faut arrêter. Ici, il y avait 5 vaches. Il y a toujours eu 5 vaches. Et finalement, on se rend compte qu'il y en a un petit peu plus maintenant. Mais finalement, ça ne marche pas. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter. On a beaucoup trop de taxes et d'impôts, ça nous paralyse.
Et ça, c'est l'Europe qui est responsable, selon vous?
Si, proprio. L'Europe est proprio responsable. Proprio. Europa, politici, tutti quanti. Proprio non. Agricoltura, allevamento, proprio non. Dobbiamo prendere. Ci comodo prendere gli immigrati.
Alors, ouais, on a.
Di barchi, di navi, quelli lì sì. Quelli lì si vede che ci rendono.
Eh ben, ouais, on a été abandonné par l'Europe.
Ma ci rendono i politici, non a noi, che noi ci ha buttato per terra.
Et oui, alors que ce soit l'Europe ou au niveau des politiques ici, l'Union européenne nous a abandonnés au profit en plus des immigrés. On voit que eux, en fait, ils arrivent ici, on les aide. Nous, on n'a absolument rien. Donc voilà, bon, les politiques, ils nous ont tous abandonnés.
Niente da fare.
Il n'y a rien à faire.
L'unico che va d'accordo con Salvini, ma sarà matto come me.
Alors, l'unique politique qui a grâce à mes yeux, c'est Salvini, mais il sera aussi fou que moi, en fait, c'est pour ça.
Moi, je suis
complètement folle, et lui aussi, je pense, du coup.
Quand on dit que passe con le ruspe, c'ha ragione.
Et quand il dit qu'il faut aller détruire les camps des Roms, il a raison. Hein.
Vous êtes en colère, hein?
Io sono arrabbiata sì di tutto, proprio di tutto.
Ouais, tout m'énerve moi-même.
Sono arrabbiata di questo, di come va a finire qua, sono arrabbiata di tutto.
Ouais, et puis alors, c'est que ce soit la situation ici, vraiment, de mon exploitation, et puis simplement quand j'allume la télé, moi j'ai l'impression que rien ne fonctionne, rien ne va.
Troppe. Se mi metto a parlare, io è finita.
Si je parle, moi, ça va pas finir, là.
Non, tutto sbagliato. Unione Europea, proprio schifo.
L'Union Européenne, c'est nul. Ça nous a détruits.
L'Union Européenne a rovinato tutto. Ci vorrebbero le frontiere comme una volta. Ecco, di qua si passa.
Il faut qu'on remette les frontières. Une chose reste ici, une autre là-bas.
Comme una volta.
Le problème de l'Europe, c'est d'abord de se définir elle-même.
Jean-Yves Camus, spécialiste des extrêmes droites.
On ne se définit pas contre, on commence par se définir par rapport à un référentiel culturel. Et de ce côté-là, le récit que nous propose l'Union européenne, il est tout de même bien faible. On n'est ni totalement au clair sur les frontières, et l'idée d'étendre l'Union européenne en tant qu'espace géographique de manière... on ne sait pas très très bien où ça s'arrêtera d'ailleurs. C'est un premier problème. Est-ce que cette Europe, c'est un espace qui se définit par des normes juridiques, la démocratie parlementaire, le pluralisme, le respect des droits de l'homme? Ou est-ce qu'il faut également mettre en avant un fonds culturel? Si c'est le fonds culturel, est-ce qu'il est laïque, chrétien, judéo-chrétien? Vous voyez, c'est autant de questions qui sont totalement laissées en suspens, puisque pour l'instant, la dimension, et je trouve que c'est fort regrettable, qui est tout de même prédominante, c'est celle d'un espace dans lequel s'épanouit l'économie de marché, dans sa version tout ce qui est le plus classique, avec un accent qui est mis sur la nécessité de faire un espace le plus large possible, où les hommes d'un côté, les marchandises et le capital de l'autre, se déplacent sans barrière. Tout cela est bel et bon. Et c'est cette dimension-là de l'Union européenne qui a prévalu. Et du coup, à un moment donné, comme il y a un vide identitaire, comme il y a une absence de récit, ça devient subitement beaucoup plus facile pour une partie des citoyens des pays de l'Union européenne de se mobiliser contre.
Edoardo Rixi.
Je suis le secrétaire général de la Ligue du Nord et je suis également l'assesseur régional pour le développement économique.
Et
l'Europe était née à la base comme un projet qui devait respecter une certaine égalité entre les pays. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc finalement, l'Europe pour l'Italie, pour le moment, c'est un très grand poids. La France a été capable à un moment de s'en tirer de manière à peu près correcte et puis elle-même, aujourd'hui, il ne s'en sort plus. Donc, nous pensons qu'effectivement, l'unique pays qui s'en sort aujourd'hui encore grâce à ce système, c'est l'Allemagne. L'Europe, finalement, s'est ouverte beaucoup plus à l'Est qu'elle ne s'est ouverte vers le Sud. Donc là, on l'a vu, c'était symptomatique avec la crise ukrainienne, mais pas uniquement. Elle a aussi également oublié toute sa phase atlantique. Donc, logiquement, les Anglais sont sortis. Nous sommes face, à l'heure actuelle, à une situation européenne qui exclut nos pays parce qu'en fait le système de financement est pervers et favorise évidemment l'Allemagne. Finalement, nous avons une fiscalité européenne qui nous pénalise puisque nous avons une sortie de 15 milliards donc vers l'Europe, vers Bruxelles, et Bruxelles nous en rétrocède 9 au final. Donc nous avons d'autant plus de difficultés à avancer avec ce système que ce système est extrêmement dur parce qu'il y a des normes à respecter. Donc finalement, c'est en plus de l'argent qui est difficile à utiliser. Tout ça crée un système qui finalement n'est pas fluide et qui favorise des pays beaucoup plus puissants comme l'Allemagne.
Alors, comment vous expliquez que on reste sur ces normes, on reste sur ces modes de fonctionnement que finalement tout le monde rejette?
Ma noi il rifiuto netto in tutte le sedi, anche a Bruxelles, lo stiamo portando avanti. Quello che è chiaro è che una costruzione di questo tipo a livello europeo.
Nous, on y travaille. Donc, la principale volonté de notre parti, c'est d'arriver à déconstruire cette Europe telle que nous la considérons, c'est-à-dire perverse, avec un consensus qui se ferait au niveau de tous les pays. Puisque notre but, c'est absolument pas de nous replier sur nous-mêmes, c'est juste de changer de système. Donc, notre travail au sein du Parlement européen à l'heure actuelle, avec ce groupe, c'est justement de trouver une manière de sortir ensemble de ce système. Mais à travers le consensus, puisque cette manière de procéder ne peut fonctionner qu'à travers le vote démocratique. Notre but est pacifique, évidemment, et il est de remettre les pendules à l'heure sur des choses très précises. Par exemple, ce qui nous a extrêmement pénalisé dans cette région, qui est la région Ligurie, c'est d'avoir perdu plusieurs centaines de millions d'euros d'exportation avec la Russie lors de la crise ukrainienne, alors même que l'Allemagne arrivait encore à exporter des voitures allemandes sans être pénalisée. Donc on sait très bien que c'est la loi du plus fort. Voilà, le conseiller nous quitte parce que la petite clochette a retenti et ça signifie qu'il y a un vote au sein de l'Assemblée.
Marek, jeune disciple de Janusz Korwin-Mikke de 19 ans et de 2 mètres, qui est au volant de la berline Mercedes noire du chef. Un chef qui l'adule. D'ailleurs, il s'habille comme lui et porte fièrement le même nœud papillon. Après une heure de route, la voiture s'engage dans les faubourgs de Lodz, la troisième ville du pays. Derrière les dépliants touristiques montrant les images d'Épinal d'une ville qui n'est plus, se cache une bien triste réalité.
Regardez cette ville. Regardez à quoi elle ressemble, le centre d'une grande ville, d'une ville riche. Et maintenant, regardez à quoi ça ressemble. On voit ces bâtiments tels qu'ils étaient il y a 100 ans. Délabrés. Je suis navré que vous ne puissiez pas les montrer parce que vous n'avez pas de caméra.
But you have camera,
mais avec vos téléphones, vous pouvez filmer. Vous devriez montrer cette ville parce que c'est une très grande ville en plein centre de la Pologne. Elle a été la capitale de la Pologne pendant quelques mois après la guerre, parce que Varsovie avait été détruite. Comme je vous le disais, c'était une ville florissante avec ses usines textiles privées et d'autres compagnies. Elles ont été nationalisées par les communistes. Des gens qui se fichaient de l'argent et qui n'ont pas su les privatiser correctement.
Because the proper way is to give it on the bidding and have it for one slot and who gives most he takes.
Les privatiser correctement aurait voulu dire concéder ces usines pour un zloty symbolique. Mais au lieu de ça, ils ont voulu gagner de l'argent. Et puis, il y a eu la concurrence chinoise et turque. Ailleurs, en Pologne, on survit encore, mais ici, le désastre a été massif. Lodz ne s'est jamais vraiment remise de ce choc.
From the shock.
Les manufactures ont survécu à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale et au communisme. Dans ces 20 dernières années, la ville a perdu plus de 200 000 habitants. Je me sens mal, mais dans ma ville, une ville de 70 000 habitants, c'est la même chose qu'ici. Mais à une moindre échelle, parce qu'ici, il y a 300 000 habitants. En tant que réactionnaire, je trouve ça triste. Nous voulons retourner à des temps meilleurs et que la Pologne redevienne ce qu'elle a été avant.
C'est en compagnie de Jérôme Segal, centralien, historien, écrivain essayiste, marathonien et spécialiste de l'extrême droite autrichienne, que nous découvrons les réalités locales. Après une heure de train, nous arrivons à Eisenstadt, la capitale de l'État fédéré du Burgenland, à quelques encablures de la frontière hongroise. Ici, le FPE, le Parti de la Liberté de l'Autriche, partage le pouvoir avec les sociodémocrates. Un mariage contre nature ? Visiblement non, car ici on partage les mêmes valeurs.
Donc, le vice-président de région est responsable de la sécurité du Land, c'est son ressort, son domaine. Et ça fait maintenant 18 mois qu'il est en fonction, depuis qu'il y a cet accord de coalition entre l'extrême droite et les sociodémocrates.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Enchanté.
Si. Merci. Merci. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
On est en période de carême, donc on nous propose que de l'eau et pas de jus de fruits, parce que tout le bureau ici, donc du vice-président, a obligation de faire le carême, parce qu'on est dans une région catholique et que donc c'est la période du carême et tout le monde doit faire le carême.
Donc il n'y a pas de véritable séparation de l'Église et de l'État en Autriche?
Non, non, pas du tout. Dans tous les tribunaux, il y a une croix, un crucifix. Dans toutes les salles de classe à l'école publique, il y a aussi une croix. Et c'est tout à fait normal pour les gens d'importer leur religion dans leur cadre de travail.
Ja, mein Name ist Johann Stürz. Ich komme aus dem Burgenland, Österreich.
Je m'appelle Johann Stürz, je viens du Burgenland et je suis donc le vice-président de cette région ici.
Dans ce land, quels sont les principaux sujets de discussion politique? Quels sont les principaux problèmes que rencontre la population du land? On est dans une zone rurale. Est-ce que les questions européennes s'invitent ici?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass in Burgenland natürlich das Thema Sicherheit eine entscheidende Rolle spielt. Wir sind ein Grenzland. Und wenn Sie die Frage ansprechen im Hinblick auf EU-kritisch oder EU-Kritik, dann muss man definitiv sagen, dass im Burgenland die Arbeitsmarktsituation verschlechtert wurde infolge dieser Arbeitsmarkt.
Les thèmes importants, c'est la sécurité, les frontières. Et s'il y a une expression critique ici par rapport à l'Europe, c'est pas tant pour les problèmes de ruralité que pour le marché de l'emploi. Ce qui a vraiment posé un gros problème pour les habitants du Burgenland, c'est l'ouverture du marché de l'emploi. Tout le monde vient maintenant ici prendre les offres d'emploi et surtout des étrangers. Cette libéralisation du marché de l'emploi au niveau européen fait que, par exemple, des Hongrois qui sont à quelques kilomètres d'ici, qui normalement gagnent 400 euros par mois, viennent travailler au Burgenland et gagnent le triple. Et donc, ce qu'il faudrait vraiment obtenir au niveau européen, c'est protéger l'emploi dans certains secteurs, comme ici au Burgenland.
Vous pensez que c'est des thématiques qui sont audibles à Bruxelles?
Welche diese Themen klar anspricht und auch natürlich darauf aufmerksam macht, warum gibt es in Burgenland Schwierigkeiten? dass das schon unterstützt wird von einem Bundeskanzler Kern zum Beispiel. Also das heißt, auch unser Außenminister Kurz, desto mehr wir aufzeigen, auch wenn man das populistischer erscheinen lässt, desto mehr wir aufzeigen, desto mehr kann man erkennen, dass die Themen...
En fait, ça va même plus loin qu'avec ce groupe parlementaire, l'ENL. Les problèmes qu'on dénonce, nous, ce sont des choses qui sont reprises même par notre chancelier Kern, social-démocrate, ou par le ministre des Affaires étrangères, Kurz, qui parfois s'exprime de façon un peu populiste, qui lui est chrétien conservateur. Ça montre qu'on a raison de vouloir ces changements et que ces changements sont sûrement possibles.
Es hat damals ein Volksbegehren gegeben, so nennt man das in Österreich, mit einem 10-Punkte-Programm. Und wenn man sich dieses Volksbegehren jetzt ansieht, das damals unter Jörg Haider durchgeführt worden ist, dann sind alle 10 Punkte nicht nur umgesetzt, sondern völlig berechtigt. Das heißt, alles, was damals schon Jörg Haider gesagt hat, wurde natürlich von den linken Gutmenschen verurteilt, weil natürlich, und das liegt ja auf der Hand...
Il faut savoir qu'il y avait un référendum en Autriche, qui s'appelait l'Autriche d'abord, avec 10 points conçus par Jörg Haider. Et ces 10 points, en fin de compte, au fil du temps, ils ont été absolument exécutés, mis en place. À l'époque, les bien-pensants de gauche étaient tous remontés. Évidemment, ils allaient perdre les places pour leurs amis. Ça fait qu'ils avaient une attitude de refus. Mais lorsqu'on regarde les posteriori, Jörg Haider avait raison et ces 10 points ont tous été appliqués.
Lors des élections législatives de 2013, un électeur autrichien sur 4 votait extrême droite. Heinz Christian Strache sortait vainqueur du scrutin. L'ex-parti de Jörg Haider, le FPÖ, recueillait plus de 22% des suffrages. L'ancien prothésiste dentaire de 47 ans était parvenu à conquérir un électorat jusqu'ici inaccessible à l'extrême droite autrichienne, les femmes et les jeunes. Redoutable communicant, Strache séduit avec des chansons de rap qu'il diffuse sur YouTube. Tout passe à la critique. L'Europe et ses experts, l'élargissement, les banques, les Turcs, de quoi menacer l'Occident chrétien. On est bien loin du Strache qui, adolescent, faisait des parties de paintball avec des groupes néo-nazis.
Je m'appelle Geza Molnar, j'ai 32 ans et je suis responsable du club parlementaire FPE au Burgenland.
Si j'ai bien compris, ici la problématique c'est la proximité avec la Hongrie et avec d'autres pays, d'où viennent un certain nombre de gens pour trouver du travail ici, c'est bien ça la problématique ?
Das ist natürlich ein Problem, wobei wir das den Ungarn nicht vorwerfen, mit denen wir eine lange gemeinsame Geschichte haben, gerade in diesem Landstrich. Das Burgenland ist ja erst seit 1921 Teil Österreichs, war vorher Teil Ungarns, Westungarns. Ich habe selbst ungarischen Migrationshintergrund, mein Großvater ist 1956.
Alors oui, effectivement, ici c'est la proximité avec la Hongrie qui est importante, mais je veux dire qu'on a une longue histoire avec eux, puisqu'on était le même pays. D'ailleurs, le Burgenland, ça fait que depuis 1921 que notre région ici du Burgenland fait partie de l'Autriche. Moi-même, j'ai des origines hongroises. Mon père est arrivé en 1956 de la Hongrie vers l'Autriche, mon grand-père plutôt. Concernant l'Europe, il est clair que l'Autriche a énormément profité de son adhésion à l'Union européenne, mais il y a des zones d'ombre, et je pense notamment à l'élargissement aux pays de l'Est, l'ouverture du travail aussi. C'est ça vraiment qui pose problème, et ce sont des problèmes qui sont même reconnus à Vienne. Très récemment, il y a quelques jours, le chancelier Kern à Vienne a reconnu ces problèmes.
Retour à Vienne, où Achim Mertel, militant du FPE, nous attend. Comment est-ce que le FPE peut faire campagne uniquement sur ces thématiques de la souveraineté européenne et de l'immigration ? Il y a d'autres thématiques. J'imagine que en Autriche, on doit aussi créer des emplois. J'imagine qu'aussi en Autriche, on s'intéresse aux problèmes socio-économiques, au système de répartition, à une société plus juste socialement. Certains partis, comme le FPE, font campagne, ou en tout cas sur ces seules deux thématiques. De l'immigration et de la souveraineté. Ça vous semble suffisant politiquement ?
Das Souveränitätsthema ist hier nicht so
aktuell. Also was genau meinen Sie mit der europäischen Souveränität? Das ist eher Marine Le Pen, die das macht. Das ist weniger die FPÖ.
Attention, c'est Marine Le Pen qui propose ça, de sortir comme ça du cadre européen. Le FPE n'est pas pour le Exit, comme Österreich, comme le Brexit. Norbert Hofer, le candidat du FPE lors de l'élection présidentielle, avait dit une phrase un petit peu ambiguë selon laquelle on pourrait éventuellement réfléchir après le succès de la Grande-Bretagne dans le Brexit. Aussitôt, il est descendu dans les sondages et il a tout de suite dit que non, qu'il n'était pas question d'une sortie de l'Europe. Alors le FPE, oui, c'est un parti nationaliste, sans aucun doute, mais ce n'est pas du tout un parti qui veut être contre l'Europe ou quitter l'Europe. D'ailleurs, juste une petite ironie de l'histoire, un petit fait un peu plaisant, c'est de rappeler que le premier parti politique en Autriche à réclamer l'intégration de l'Autriche dans l'Union européenne, ça a été le FPE. Et ce qui aboutit en 1995 à l'entrée de l'Autriche dans l'Union européenne.
Vous habitez ce quartier, Medling. Cette permanence, visiblement, est ouverte depuis 6 ans, si j'ai bien compris.
Oui, cette permanence, c'est très variable. Ça m'est déjà arrivé de passer devant. Parfois, c'est un peu vide. Et puis parfois, il y a les gens qui attendent, 2-3 personnes. Alors que le FPE, ce parti d'extrême droite, n'est pas très fort dans le quartier. Ils ont cette permanence. Ils ont aussi, dans cette rue commerçante à côté, un stand. Ils distribuent des crayons, ils distribuent des petits autocollants, des porte-clés, tout un type de merchandising bleu, de la couleur du parti. Et là aussi, je vois que ça marche bien, que les gens sont réceptifs.
Et alors pourquoi vous venez ici au bureau local du FPE ?
Da war ich ein blauer Fan bin und da Strache immer gern gehört habe.
Il est là parce qu'il est pour Strache et il serait temps qu'on fasse quelque chose pour les Autrichiens. Il n'y en a que pour les étrangers et les étrangers, il y en a bien trop. Ça suffit maintenant.
Mais aujourd'hui, vous venez pour quel problème ?
Non, je suis Mitglied. Je suis Kunde.
Il est là, mais lui, en fait, il est membre du parti. Il a sa carte de membre du parti qu'il est en train de nous montrer, une carte aux couleurs de l'Autriche. Et en fait, il passe par là et il est fier que le FPE ait cette permanence.
Pourtant, l'Autriche est un pays qui va bien économiquement.
Ja, so ging es eigentlich Österreich gut, aber ich habe immer eines gesagt, die Grenzen gehen zu.
Le problème, c'est d'abord en Autriche, les frontières. Les frontières, ça doit être fermé. Une frontière, ça sert à être fermé. Et puis, il serait temps d'aider les Autrichiens, d'arrêter les étrangers pour les renvoyer et aider les retraités autrichiens.
Dites-moi, un parti social et nationaliste, ça rappelle des mauvais souvenirs quand même.
Aber wenn die Partei so nationalist und sozialistisch ist, ist es auch nationalsozialistisch. Es ist eine alte Erinnerung.
Ja, es ist eine alte Erinnerung.
Oui, c'est effectivement un vieux souvenir, si on dit que c'est en même temps national et socialiste, mais c'est ce qui est nécessaire, parce que tel que c'est maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. Volksvertreter, Stadtverräter, Abendland in Christenland, mit uns für soziale Werte, Stadt EU nur für Konzerne. Irgendwann ist Zeit zum Zahlen, doch dafür gibt es ja mal. Wenn du diese Zeilen hörst, dann weißt du Österreich zuerst. À Anvers, les nationalistes flamands du Vlaams Belang attendent avec impatience les prochaines élections pour asseoir leur légitimité populaire. Comme Chris Marens, fervent militant et eurosceptique convaincu. Des militants autrichiens aux militants flamands, tous se retrouvent sur les mêmes terrains mouvants.
Moi je compare le printemps arabique avec ce qui se passe en Europe maintenant. Tout le monde a dit on ne veut pas de dictature, on veut être le patron de notre propre pays. Et ça, c'est la raison de ce qui se passe maintenant en Europe. Fin des dictats de l'Europe.
Si on parle d'immigration, les problèmes de l'Anversois.
Gerold van Mans, chef de file du Vlaams Belang au sein du groupe parlementaire Europe des Nations et Libertés au Parlement européen.
De ce quartier où je pourrais vous mener, si vous vouliez. l'Anversois anéanti, enfin non, le vervreemd, devenu étranger dans sa ville, dans son quartier. Ce problème partiellement psychologique, mais partiellement réel, social aussi, et sociologique bien sûr, cet Anversois-là, il commence à s'en rendre compte que les frontières ouvertes de l'Union européenne, quand il y a des débats, il voit que l'Union européenne défend le Schengen, le schéma de Schengen, etc. Cet Anversois, votre Vlaams Belang bien sûr, il l'a toujours fait même pour d'autres raisons que celle-là, mais de plus en plus, il prend en compte le nœud du problème. C'est que tout ça nous est imposé par une Union européenne qui marche dessus, qui nie que cet Anversois connaît ses problèmes, comme d'ailleurs le Bruxellois connaît ses problèmes et le Parisien connaît ses problèmes. Là, on est dans une logique et dans une ambiance de... Oui, de fondamentalement mettre en cause l'Union européenne comme la source de la plupart des problèmes.
Mais alors, quand vous êtes là, ici, à la mairie d'Anvers, j'imagine que vos administrés ou vos collègues, qui, eux, ne siègent pas au Parlement, ils vous posent des questions sur l'Europe. Qu'est-ce qui vient de l'Europe et qui, au quotidien, gêne les Anversois ?
Il ne faut pas essayer de reconstruire d'en haut comment ça fonctionne, et prendre la grande loupe et dire comment ça marche, tous ces principes sur l'Union européenne, comment ça marche à l'inverse. Les gens, ils s'en foutent de l'Union européenne dans le sens, ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui est le moteur de tout ce qui se passe. Et ils soupçonnent de plus en plus, mais en Flandre, on vient de... c'est pas comme dans les autres pays d'Europe. En Flandre, on a subi les conséquences d'une grande propagande qui provient du fait que Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Ça nous rapporte beaucoup d'avantages économiques, etc. Aussi, on voit aussi que les Flamands, avec leur connaissance des langues, ils montent très vite dans l'Union européenne, etc. Donc pendant toute ma jeunesse et pendant une grande partie de ma vie d'adulte, j'ai toujours dû entendre que tout ce qui est européen est mieux. Et c'était dans la culture des Flamands, non seulement d'accepter cette propagande, mais aussi de ne pas mettre en question l'Union européenne comme elle l'est devenue entre-temps. Ce n'est que les dernières 5 années que seulement le Vlaams Belang a mis la question sur la table. Inspiré par nos partenaires, j'avoue bien, par nos partenaires européens, qui étaient beaucoup plus eurocritiques. Les Flamands sont des gens très braves, trop braves. Ils ont connu tellement d'occupations qu'ils ont tous avalé, qu'ils ont tous survécu, qu'ils sont devenus caractériellement braves. Et donc avant qu'ils comprennent, dans un débat sur l'Union européenne par exemple, avant qu'ils comprennent que ça, un débat pareil est important, ça prend du temps. Et donc ce que je fais moi, c'est introduire ce débat. Je l'ai fait en 2004 avec un colloque à Bruxelles. Introduire ce débat dans la culture du parti d'abord. C'était même au sein du parti un débat que je devais mettre sur la table. Une bataille que j'ai dû gagner avant que j'ai pu me lancer là-dedans. Et puis sont venues les alliances avec Marine Le Pen, Geert Wilders, etc. Maintenant, on est en marche.
Merci à Gerolf Anmans, Chris Marens, Achim Mertel, Janusz Korwin-Mikke, Geza Molna, Johann Sturz, Jérôme Segal, Simon Clavière, Marek, Christophe, Simonetta et son cousin, Eduardo Rixi et Jean-Yves Camus. Parlement européen, le grand machin supranational.
Réalisation Doria Zénine. Mixage Alain Joubert. Attaché de production Marie-Yvonne Abolivier. Coordination Perrine Carvran. Un documentaire d'Alain Lefkovitch et Doria Zénine pour la série documentaire.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez être sûr d'avoir bien entendu, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour choisir le bon bulletin ou nous réécouter au dépouillement, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et sur cette même page, pour continuer à scruter les extrêmes avec notre partenaire, un lien vers Tenk, la formidable plateforme du documentaire d'auteur qui vous permet de visionner pendant 2 semaines The Horse, un documentaire de Charles Burnett. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et demain, dernier épisode, faut-il avoir peur d'une internationale brune ?